Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Lyon. C'est la deuxième ou troisième fois, je crois, que je viens. Et en fait, je voulais profiter de cette opportunité pour vous présenter un travail en cours avec Lise Lecuyer, qui est doctorante à l'OSC, enfin au CRIS. J'ai du mal aussi maintenant à changer de nom. Et qui porte sur un phénomène qui est très connu, mais assez peu étudié en fait dans le détail, qui est ce lien entre gentrification résidentielle. Donc j'ai choisi de bien distinguer les deux aspects, et gentrification scolaire. Alors peut-être pour démarrer et vous dire dans quel cadre théorique ça se situe. En fait, j'ai souvent tendance à dire que je suis peut-être plus sociologue urbain que sociologue de l'éducation. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de toujours resituer l'environnement scolaire ou les différents contextes scolaires dans les environnements urbains dans lesquels ils s'insèrent. Donc au plus près des caractéristiques socio-urbaines, caractéristiques des quartiers ou des secteurs scolaires ou des municipalités, et ne jamais détacher ces effets de structure ou ces effets de contexte de ce qui se passe dans l'école, que ce soit dans le choix de l'école, du collège ou du lycée, ou sur d'autres aspects de l'expérience scolaire. Donc c'est vraiment un point sur lequel j'insiste toujours. Et ce qui explique aussi, je ne vais pas en parler beaucoup ici, c'est un autre travail qu'on mène depuis plusieurs années, en partie avec Edmond Pretzel, qui est ce lien entre ségrégation résidentielle et ségrégation scolaire de façon beaucoup plus large. Et donc l'idée que c'est vraiment important de ne jamais déconnecter ces deux dimensions. Donc si vous voulez, on pourrait peut-être y revenir après si vous avez des questions plus précises. Je vous conseille vraiment ce texte-là, qui est une mise au point, je trouve, théorique très, très intéressante sur la pertinence théorique de relier des effets de structure liés au quartier, aux différents espaces urbains, toute l'architecture institutionnelle autour des questions d'éducation à la question précisément du rapport à l'école et pas uniquement des choix scolaires. Donc c'est vraiment, je trouve, un très, très beau texte de synthèse. Alors, quelles sont les questions de recherche? Ça part en fait d'un constat très très simple, qui d'ailleurs concerne sans doute aussi de façon intense la métropole lyonnaise, lilloise, marseillaise, etc. Mais vous le verrez, je vais surtout parler de la métropole parisienne, qui est mon terrain d'étude privilégié sur ce projet-là. Et qui part du constat, alors je n'ai pas mis le graphique parce que je ne voulais pas trop alourdir la présentation, mais que bien évidemment, le fait marquant pour tous les sociologues urbains des 15 dernières années, c'est l'augmentation phénoménale du prix de l'immobilier, qui a des répercussions à la fois sur l'accession à la propriété, mais aussi sur le locatif privé dans des espaces résidentiels, dans des quartiers qui ont des propriétés particulières, entre autres d'attractivité scolaire, en termes de ressources scolaires. Et donc, il y a quelque chose d'important, alors qui se traduit dans le cas français par un mouvement que précisément beaucoup de sociologues ont plutôt analysé en termes de gentrification, c'est-à-dire d'installation de classes moyennes supérieures, on y reviendra, dans des communes moins sélectives sur le plan du marché immobilier, qui leur permettent, pour certaines, d'accéder à la propriété. Et donc, ce qu'on voit, c'est vraiment un mouvement, on va le voir quantitativement après, de départ vers les communes de la première couronne. Et donc, je l'ai dit, opportunité d'accéder à la propriété. Et donc, vous voyez, on s'est posé une question toute simple. Est-ce que cette arrivée, parfois très significative, de classe moyenne supérieure, dans ces communes majoritairement populaires, Malakoff, Bagneux, etc., Saint-Ouen, Pantin, on verra les cartes après. Est-ce que ça s'est traduit par, est-ce que cette présence plus forte se retrouve dans les collèges? Vous voyez, constat et question très très simple. Donc d'où cette idée gentrification résidentielle versus gentrification scolaire, et donc quel impact sur le profil des établissements. Alors, du point de vue des données, je l'indique aussi parce que cette base est assez peu connue et elle est facile à utiliser en accès sur le site de l'INSEE. C'est la base mobilité scolaire qui est très très riche pour connaître le lieu de résidence, le lieu de scolarisation, etc. Et vous le verrez, sur différentes données, le recensement général de la population de l'INSEE à l'échelle municipale et à l'IRIS. En termes de méthode, des choses assez classiques. Je ne vais pas détailler ces aspects-là, mais donc d'une part des statistiques descriptives, d'autre part des analyses factorielles avec des classifications pour le profil social, le profil scolaire de la commune, des communes environnantes, etc. Et régression logistique toute simple sur l'évitement scolaire que je vais vous présenter par la suite. Alors, un point important, c'est que comment caractériser l'évitement scolaire ? Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce qu'on a fait dans le cadre de cette étude, c'est de prendre comme indicateur la scolarisation hors commune. Alors pourquoi c'est indiqué là ? C'est pour, sauf quelques rares exceptions, pour toutes les communes de la première couronne, la sectorisation pour le collège s'organise à l'échelle de la municipalité. Ça veut donc dire que si on connaît le pourcentage et leurs caractéristiques sociales des élèves qui sont scolarisés hors commune, ça veut bien donc dire qu'ils évitent le collège de secteur. Le problème, c'est qu'il y a une limite importante, c'est qu'on ne prend pas en compte toutes les logiques d'évitement à l'échelle inframunicipale. Et donc, vous voyez, je vous ai mis ici une première donnée. Ça ne mesure que 60% de l'évitement total. Et vous allez voir que, alors qu'on n'en mesure qu'un peu plus de la moitié, c'est déjà très significatif et ça vous donne une idée de ce que serait l'évitement total, le niveau de l'évitement, si on y intégrait également l'évitement au sein de la commune de résidence. Alors, peut-être je le dis maintenant pour ne pas l'oublier, il se trouve que vendredi, on en parlait tout à l'heure, j'étais donc au lancement de l'Observatoire de la mixité et l'attractivité des collèges en Seine-Saint-Denis. Et j'ai commencé par dire que cette question était importante, puisque à l'échelle de Paris plus première couronne, si la sectorisation scolaire était appliquée parfaitement, ça réduirait de 40% la ségrégation scolaire totale. Donc ça donne une idée de ce que fait et ce que ne fait pas la sectorisation scolaire en termes de capacité à reproduire dans les collèges le profil des différents secteurs. Donc encore une fois, à réduire de 40% la ségrégation scolaire totale, ça montre encore une fois que cette mesure, si elle était appliquée parfaitement, aurait cette efficacité-là. Alors, premier point, je vais... Alors, attendez. Ah, c'est marrant, j'ai pas mis là. Ah, bon, tant pis. Je ne suis pas sûr d'avoir mis la bonne version. C'est pas grave. Donc, alors, premier point, c'est vrai, et donc là, il y a en creux une discussion sur le concept de gentrification. Je ne vous cache pas que j'ai toujours été gêné par l'usage, parfois un peu rapide, très général, de gentrification, qui se réfère en fait à des processus très différents. Alors, on le voit ici, vous voyez, donc, ce sont toutes les communes de la première couronne, qui sont considérées comme en gentrification. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que c'est des communes qui, en 2008, avaient un pourcentage de classe populaire employés plus ouvriers supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes de la première couronne et qui, en 2018, entre 2008 et 2018, ont connu un taux de croissance des classes supérieures, au sens de cadre et profession intellectuelle du supérieur, supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes de la première couronne. D'accord ? Donc des communes qui étaient plus populaires que la moyenne de toutes les autres communes de la première couronne en 2008, et qui, sur cette période-là, ont connu le taux de croissance le plus fort de classes moyennes supérieures. D'accord ? Et ce que vous voyez, c'est effectivement qu'il y a bien... Des contrastes entre ces communes. Donc voilà toutes les communes qui correspondent à ce que je viens d'indiquer. Dans le premier cas, vous voyez qu'on a un écart significatif entre le profil de la commune et celui des collèges. D'accord ? Ça veut dire que les collèges ne reflètent pas de façon fidèle le profil de la population résidente au sens des 11-14 ans. Hein. Ici, je n'ai pris que la population en âge d'être scolarisée au collège. Donc, un écart significatif et un taux de scolarisation relativement élevé. D'accord ? Ici, on voit qu'il y a un faible impact mais, sur le profil des collèges et un écart plus modéré entre le profil de la population résidente et de la population scolaire. Et enfin, et vous voyez que vous retrouvez ici souvent d'ailleurs les communes qui sont présentées comme emblématiques de la gentrification, dont Montreuil ou Malakoff, pour ceux qui connaissent. Et vous voyez que ici, l'écart est quand même, il y a peu ou pas d'écart. C'est-à-dire que là, encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport un peu à l'idée reçue que, ben oui, à Montreuil, il y a les bobos, tout ça, profession culturelle, journaliste, artiste, eh ben, ça évite massivement, oui, mais moins qu'ailleurs. Et surtout, c'est parmi les communes où l'écart entre le profil des 11-14 ans dans la commune et dans les collèges est le plus faible. Donc, vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, mais que d'une certaine façon, Montreuil n'est pas dans la situation la plus problématique de ce point de vue-là. Et moi, j'insisterai plutôt sur Saint-Ouen, et on pourrait actualiser sur 2014, qui est une commune où, effectivement, on a des écarts beaucoup plus importants. Alors, c'est dommage, j'avais fait des cartes, mais je ne sais pas, j'ai peut-être changé de... Ah, ça ne marche plus, hein ? Bon. Hop, on va faire comme ça. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais dans le fond, quels sont les déterminants de l'évitement scolaire ? Quels sont les facteurs, les variables qui expliquent le mieux et qui jouent le plus dans la pratique de l'évitement scolaire, au sens de ne pas scolariser l'enfant dans le collège du secteur ? Et voyez d'emblée à quel point c'est contrasté socialement et que c'est une pratique particulièrement, enfin, significativement plus forte pour les cadres et professions intellectuelles du supérieur, et d'autant plus forte que l'on parle, c'est le bleu clair, des communes en gentrification dont je viens de faire la présentation. Donc là, il y a déjà quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que globalement, ce que vous saviez sans doute, hein, je ne vous apprends rien, ce sont plutôt les classes supérieures qui évitent le plus, d'accord ? Et n'oubliez pas que ce sont celles qui sont aussi le plus ségrégées dans l'espace résidentiel, donc qui, a priori, ont de moins bonnes raisons d'éviter, et pourtant, c'est elles qui évitent le plus. Mais elles évitent d'autant plus qu'elles résident dans des communes en gentrification. Alors, deuxième aspect, et c'est là que vous allez retrouver mon côté urbain, parce que c'est ça qui m'intéressait dans le fond, c'était de me dire, mais... étant donné les contraintes résidentielles, la modalité principale d'accession à la propriété pour les classes moyennes et supérieures, c'est d'aller dans une banlieue populaire de la première couronne, sachant que ce sont des catégories qui vont beaucoup moins vers le périurbain, où là, ce sont plutôt des petites classes moyennes ou des classes populaires stables qui accèdent à la propriété, mais en deuxième couronne, voire encore plus éloignées. Et là, vous voyez qu'on retrouve quelque chose d'intéressant, c'est que ce sont les propriétaires qui, quand même, significativement évitent plus que les locataires du privé et locataires HLM, et qui évitent d'autant plus qu'il s'agit de communes en gentrification. Et donc là, on a un premier élément de ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'il y a bien un parcours résidentiel qui fait que, pour accéder à la propriété, on va... choisir une commune plutôt populaire, et donc on devient propriétaire, mais l'évitement scolaire dépasse les 40% quand même. Et vous allez voir après, quand on croise, vous le devinez déjà, j'anticipe, le statut d'occupation et la catégorie sociale, on va avoir des effets encore plus marqués. Alors, du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails de la régression logistique, mais vous voyez que déjà là, on va voir des choses plus complexes que je vais détailler par la suite. Ce que vous voyez tout de suite ici, donc vous voyez qu'on a d'une part des caractéristiques de l'élève, son sexe, le milieu social et le statut d'occupation du ménage. Et ici, des variables différentes. Le profil scolaire vis-à-vis des communes limitrophes. Est-ce que la commune dont on parle est plus favorisée que celle qui l'entoure, moins favorisée ou identique ? Et vous allez voir que ça joue énormément. Deuxième aspect, est-ce que dans cette commune, il y a une forte homogénéité ou au contraire, une forte hétérogénéité des établissements scolaires? Autrement dit, est-ce qu'il y a des contrastes de profils sociaux au sein de la commune? Et enfin, vous en doutiez un petit peu, est-ce qu'il y a au moins un établissement privé? Et là, on retombe sur ce que je disais au début, sur l'évitement au sein de la même commune de résidence. Et vous voyez déjà que, donc ici, la référence, c'est les classes supérieures, que toutes les autres catégories évitent significativement moins que les classes supérieures. Donc, on retrouve toute chose égale par ailleurs, hein, régression logistique, toute chose égale par ailleurs, je vais le dire dans l'autre sens, les classes supérieures évitent significativement beaucoup plus que toutes les autres catégories sociales. Et vous voyez qu'ici, on retrouve l'effet très fort du statut de propriétaire, toute chose égale par ailleurs, par rapport aux autres statuts d'occupation. Ici, rien d'étonnant, et je vais le détailler après, si la commune est moins favorisée que les communes limitrophes, l'évitement augmente de façon très significative. Ici, on voit bien que lorsqu'il y a une faible hétérogénéité, on évite plus, pour les communes en gentrification, et je reviendrai après sur l'effet du privé. Alors, du coup, je trouve toujours plus simple de revenir à des statistiques descriptives. Et voyez ici qu'on croise, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, l'ACS avec le statut d'occupation du logement. Regardez ce qui se passe. C'est quand même frappant. Vous voyez bien que les propriétaires, pour toutes les catégories sociales, évite plus que tous les autres, mais que cet écart est particulièrement... l'évitement lié à la catégorie sociale est très fort pour ces deux catégories-là, donc les travailleurs indépendants, artisans, commerçants et chefs d'entreprise, et cadres et professions intellectuelles du supérieur. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui lie fortement le statut d'occupation à la catégorie sociale. Et vous allez comprendre... pourquoi par la suite. Alors, justement, c'est là où ça devient intéressant d'affiner les choses, puisque vous savez sans doute que le discours commun, c'est de dire, et je peux vous assurer que je l'entends très souvent, bah oui, l'évitement scolaire, c'est les classes supérieures qui ne veulent pas cohabiter avec les classes populaires et surtout d'origine immigrée. C'est ça le cliché. Vous allez voir que c'est ça, mais on ne peut pas réduire l'évitement scolaire uniquement à ce constat-là. Et que ça met en jeu d'autres caractéristiques qui sont celles qu'on retrouve dans la régression que j'ai présentée précédemment, à la fois l'environnement du bassin scolaire au sens large, présence du privé ou pas, hétérogénéité versus homogénéité des établissements dans la commune de résidence, etc. etc. Alors, ici, par exemple, on continue le raisonnement en associant la catégorie sociale au contexte scolaire de la municipalité de référence. Et vous voyez quand même ce qui en dit long. Vous voyez bien que si il s'agit d'un contexte scolaire local favorisé, l'évitement scolaire est significativement beaucoup plus bas pour toutes les catégories sociales. Et vous voyez que dès qu'il s'agit d'un contexte scolaire local défavorisé ou même mixte, et vous voyez que mixte, c'est plus important que défavorisé, l'évitement scolaire augmente de façon significative. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est très lié à la perception du profil scolaire de la municipalité et de ce qu'il implique en termes de choix. Ici, je vais mettre tout de suite, vous voyez bien que ça devient encore plus clair quand on est sur trois dimensions. On ne raisonne que sur les propriétaires. Donc prenons l'exemple des classes supérieures propriétaires. Et vous voyez bien que lorsqu'elles résident dans un contexte scolaire mixte, le taux d'évitement double pratiquement. Donc il y a bien quelque chose qui montre que on retombe sur ce que je disais au départ, sur le lien entre gentrification résidentielle au sens de mouvement massif d'accession à la propriété de classe moyenne supérieure dans les communes populaires ou mixtes de la première couronne, mais c'est souvent accompagné d'une pratique d'évitement assez forte, étant donné la perception qu'elles ont de l'environnement scolaire local. Alors, ici, on le voit différemment. Donc, on joue sur le statut d'occupation en reprenant exactement la même chose. Profil scolaire moins favorisé, donc au sens des communes limitrophes, moins favorisé, autant favorisé, plus favorisé. Et vous voyez à quel point, et vous verrez, j'y reviendrai à la fin en termes d'action publique, vous voyez bien que, en termes de pratique scolaire, imaginez que les parents, en particulier des classes supérieures, se restreignent à l'espace municipal pour leur choix scolaire, c'est une totale aberration. Puisque, et vous le verrez, moi j'ai mis les cartes, mais apparemment j'ai dû changer de version, les propriétaires ne pratiquent jamais autant l'évitement scolaire que lorsque le contexte environnant, au sens de l'ensemble des communes limitrophes de la commune de résidence, sont plus favorisés que cette commune. Donc il y a bien une logique d'évaluation de l'offre scolaire qui dépasse le cadre municipal, alors qu'on continue de penser que la sectorisation scolaire doit essentiellement s'appliquer et s'organiser à l'échelle municipale. Non, je vais passer là-dessus. Alors, peut-être donc vous dire ce que j'en conclue rapidement. Première chose, là je pense que je ne vous apprends rien, mais l'évitement scolaire est nettement plus élevé dans les classes supérieures, surtout lorsqu'elles sont propriétaires dans des communes en gentrification dont le profit scolaire est défavorisé. Donc là, on atteint un taux d'évitement de 51%. Ça veut dire, je peux prendre l'exemple de communes que je connais bien, à Nanterre par exemple, plus de la moitié, c'est même 56%, des enfants de cadres et professions intellectuelles du supérieur ne scolarisent pas leurs enfants dans des collèges de la commune. Plus de la moitié. Mais encore une fois, et je vais faire le saut tout de suite, ça ne veut pas dire que dans des communes très favorisées, on n'atteint pas ces taux-là. Boulogne-Billancourt, par exemple. Courbevoie, Levallois. Mais là, on n'évite pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le cas de Boulogne-Billancourt est intéressant. Vous avez des secteurs où vous avez plus de 65% de classe supérieure à l'échelle du secteur, mesurée à l'échelle du secteur scolaire, et pourtant, vous avez autour de 55% des parents qui évitent le collège, dont le profil est très favorisé pour aller dans le 16e arrondissement, pour aller dans d'autres établissements. Donc, vous voyez bien que c'est une façon de dire que s'intéresser au choix scolaire des parents, ça met en jeu toute une série de facteurs qu'on ne peut pas réduire à un seul facteur qu'on isolerait, qui serait la catégorie sociale, et qu'on tirerait vers les classes supérieures. On voit bien qu'il y a une imbrication entre des effets qui mettent en jeu effectivement la catégorie sociale, mais des éléments de contexte à différentes échelles, privés, pas privés, moins favorisés versus plus favorisés, etc., etc. Et que c'est bien cette complexité que la carte scolaire, la sectorisation scolaire, au sens où elle est appliquée aujourd'hui, a du mal à prendre en compte. Parce que c'est une complexité qui lui échappe par la façon même dont elle est régulée institutionnellement. Ça conduit à dire ce qui est indiqué en rouge. C'est-à-dire que dans le fond, l'enjeu qui est derrière ces travaux sur, on va le dire, la ségrégation scolaire, ou le lien entre ségrégation résidentielle et ségrégation scolaire, c'est de mettre en évidence que c'est toujours ramené, enfin, c'est qu'au départ, il y a bien quelque chose qui renvoie à l'inégale répartition dans l'espace urbain, à la fois des catégories sociales, donc là, la ségrégation résidentielle au sens classique, mais aussi à des processus d'inégale répartition dans l'espace de toute une série d'autres caractéristiques urbaines, et pas simplement public-privé, mais qui créent des écarts en termes de hiérarchisation entre les différents territoires. Et c'est bien ramener à ces marges de manœuvre dans ces différents territoires qu'on doit comprendre comment agissent les différents groupes sociaux et qu'est-ce que ça produit en termes d'inégalité et de ségrégation scolaire. Alors, bien évidemment, il est important de rappeler que dans cette affaire-là, j'en ai très très peu parlé pour l'instant, et c'est particulièrement le cas en région parisienne, l'enseignement privé tire, si je puis utiliser cette expression, tire son épingle du jeu, pour plusieurs raisons. D'une part, contrairement au collège public, elle échappe totalement à la sectorisation scolaire, donc ça revient à dire qu'elle échappe à toute une série de contraintes d'ancrage résidentiel liées au lieu de résidence des parents. Donc il n'y a pas de contraintes territoriales posées au recrutement des élèves pour l'enseignement privé. Donc elle s'exonère, donc c'est un secteur de l'enseignement qui échappe au processus que j'ai indiqué précédemment et qui, étant donné la façon dont sont mis en concurrence des établissements publics dans certains secteurs des métropoles, jouent un jeu évident d'attractivité qui leur permet aussi d'échapper à des contraintes institutionnelles. Alors, je me permets d'indiquer une très, très belle thèse en cours d'Audrey Chamboredon, qui fait une comparaison très, très fine, qui reprend, mais pas précisément sur ces aspects-là, mais qui reprend, qui fait une analyse comparée des parcours résidentiels et scolaires des classes moyennes à Lille et Toulouse. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que ce qu'elle montre, comme vous le savez sans doute, c'est que ce sont deux contextes métropolitains et scolaires très différents. C'est à peu près la moitié des élèves du collège qui sont dans le privé à Lille. C'est 18-17% à Toulouse. Donc vous avez d'un côté, je parle de la métropole lilloise et de la métropole toulousaine. Hein, d'accord ? Donc vous avez une ville où grosso modo la moitié des collégiens sont dans le privé, et alors que c'est beaucoup plus faible dans l'autre. Vous avez dans un cas Lille, une ville où globalement la ségrégation résidentielle mesurée de façon classique et la ségrégation scolaire, les deux sont beaucoup plus fortes qu'à Toulouse. Et donc ce qu'elle essaie de montrer, et c'est très très intéressant dans sa thèse, c'est comment ça se rapporte à des marchés scolaires différents. C'est-à-dire, elle parle d'un marché très contraint à Toulouse, au sens d'une très forte régulation publique, portée aussi par les initiatives du département pour la mixité scolaire, versus Lille, où il y a une moindre contrainte institutionnelle liée à deux facteurs. Le fait que l'enseignement privé est beaucoup plus diffus dans l'ensemble des quartiers par rapport à Toulouse, très concentré dans le centre-ville. Et surtout, que, étant donné cette forte présence du privé, les parents ne forment, parce qu'elle fait, elle a à la fois une méthode mixte, quantitative et qualitative, dans les entretiens réalisés auprès des parents, la notion même de choix scolaire ne semble pas se poser à Lille. Il va de soi pour les parents, la question du collège du secteur est d'emblée relativisée par le fait que c'est beaucoup moins contrôlé sur le plan institutionnel et beaucoup plus libre, étant donné la forte diffusion territoriale du privé, ce qui n'est pas du tout le cas à Toulouse, où du coup, la présence, elle parle même, Audrey, de puissance publique, au sens de l'action publique, beaucoup plus forte à Toulouse, beaucoup plus contraignante. Et du coup, ça a pour effet aussi de reporter la crispation scolaire du collège au choix du lycée. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, elle montre, vous voyez, que dans deux... Ça rejoint ce que je disais au début, sur l'intérêt de ne jamais déconnecter les dynamiques urbaines au sens de ségrégation, d'intensité des inégalités et de rapport entre les groupes sociaux, de ce qui se joue dans le rapport à l'école, et par-dessus ça, la façon dont la régulation publique intervient ou pas, à quel niveau et avec quel effet. Et donc ça, on le voit parfaitement. Alors, donc voilà, donc, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Donc, on voit bien que, peut-être dire un mot sur cet aspect-là, je pense que je suis même modéré aujourd'hui dans la façon dont je formule ma critique des approches en termes de gentrification. Je vous dis sincèrement que j'ai été un peu énervé de voir à quel point ça s'imposait comme un concept fourre-tout, qu'on l'utilisait à tort et à travers. Et que précisément, lorsqu'on regarde de très très près, et là, on est en train de finir avec Edmond un travail qui affine ce que je vous ai présenté dans la première partie, où on va à la fois, bien évidemment, j'imagine que c'est une critique que vous m'auriez adressée tout de suite après, donc je l'anticipe, on a décomposé la catégorie cadre et profession intellectuelle du supérieur pour d'un côté mettre plutôt les cadres du privé, mais y compris dans le secteur de la finance, du marketing, et y compris en termes de profession libérale, versus l'autre segment de cette catégorie, plutôt associé au cadre du public, profession et professeur scientifique, profession des arts, de l'information et du spectacle, pour voir précisément à la fois en quoi ça redifférencie ce que je vous ai présenté sur la série de communes en gentrification. Et c'est fascinant, c'est dommage, j'essaie de retrouver la version, j'avais fait les cartes. Et on voit très bien déjà, moi c'est quelque chose sur lequel j'insiste depuis longtemps, en n'étant pas toujours entendu, c'est que parler de gentrification à Levallois, Courbevoie, ici les Moulineaux, Nanterre, Puteaux, Suresnes, pour ceux qui connaissent, c'est pas du tout la même chose que la gentrification à Saint-Ouen, Pantin, Aubervilliers, Montreuil, Malakoff ou Bagneux. C'est pas la même chose. Au sens, c'est pas les mêmes catégories, c'est pas le même impact sur la ségrégation scolaire et c'est pas le même impact en termes d'ancrage local et de rapport aux institutions de façon générale. Donc, voilà, j'insiste peut-être parmi vous, je ne sais pas s'il y a des étudiants, je pense que oui, sur, mais dans l'usage du concept de gentrification, à manier avec beaucoup de précaution, et que c'est un peu une facilité de considérer qu'à partir du moment où un quartier originellement populaire devient plutôt un quartier de classe moyenne, à fort capital culturel, et ben c'est de la gentrification. Il y a différents types de gentrification, différentes conséquences de la gentrification, sur en particulier le rapport à l'école, mais sur beaucoup d'autres aspects de la vie locale. Voilà, je vais m'arrêter là, puis je vais essayer de retrouver les cartes pendant que vous avez des questions.